Si vous voulez accéder à la transcription complète, créer des fichiers médias et bien plus encore, visitez lingia.com.
Commençons par l'épisode d'aujourd'hui.
Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de notre podcast de français intermédiaire. Je suis Nicolas.
Et je suis Nicolas. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet passionnant qui nous plonge au cœur de la ferveur sportive.
Absolument. Aujourd'hui, nous allons parler des supporters ultra. Quel est leur rôle dans l'identité d'un club de football? Sont-ils juste des fans très bruyants ou y a-t-il plus que cela derrière cette passion?
Quand on pense aux ultras, on imagine tout de suite les chants à plein poumon, les fumigènes qui colorent le ciel des stades et une ambiance incroyable. Mais vous allez voir que leur impact est bien plus profond qu'une simple animation de stade, n'est-ce pas, Julie?
Tout à fait. C'est une force vive, parfois déroutante, mais toujours présente. Préparez-vous à découvrir comment ces groupes de fans passionnés façonnent l'âme et la tradition d'une équipe de football.
Alors, commençons par le commencement. Qui sont ces ultras? Qu'est-ce qui les distingue des autres supporters plus classiques, ceux qui viennent simplement voir un match?
C'est une excellente question, Nicolas. Les ultras ne sont pas des simples fans, loin de là. Ce sont des groupes très organisés, avec une structure interne, des leaders et même leurs propres règles et codes. Leur but principal est de soutenir leur équipe de manière inconditionnelle, qu'elle gagne ou qu'elle perde, qu'elle soit en première division ou qu'elle descende en ligue inférieure.
Le mouvement ultra est né en Italie dans les années 1960, n'est-ce pas? C'est là que cette culture a vraiment pris son envol et s'est ensuite propagée dans toute l'Europe.
Oui, exactement. Leur philosophie est basée sur la ferveur collective, une présence vocale constante pendant 90 minutes et souvent bien au-delà. Ils ne s'arrêtent jamais de chanter et d'encourager, peu importe le score.
Pensez aux tifo, ces immenses chorégraphies visuelles que l'on voit dans les stades. Ce sont des œuvres d'art collectives. Ils utilisent des banderoles géantes, des drapeaux, des voiles qui recouvrent des tribunes entières, créant des messages ou des dessins impressionnants. C'est leur marque de fabrique pour montrer leur soutien.
C'est ça. Ils ne sont pas là pour un simple divertissement passif. Ils se considèrent comme le 12e homme sur le terrain, une force supplémentaire pour l'équipe. Ils participent activement à l'expérience du match, transmettant leur énergie aux joueurs et influençant l'ambiance générale.
On les entend pendant tout le match, sans arrêt. Et c'est cette énergie, ces encouragements constants, ces cris et ces chants qui peuvent véritablement galvaniser les joueurs, leur donner un second souffle quand ils sont fatigués ou qu'ils perdent espoir. C'est un soutien qui vient du cœur.
Au-delà de l'ambiance pure et de l'énergie qu'ils apportent, les ultras jouent un rôle crucial dans la préservation de l'identité et de l'histoire d'un club. Comment cela se manifeste-t-il concrètement, Nicolas ?
C'est un aspect vraiment fascinant. Les ultras se considèrent souvent comme les véritables gardiens du temple du club. Ils défendent l'histoire, les valeurs fondamentales, les symboles ancestraux du club, le blason, les couleurs traditionnelles, les chants anciens qui rappellent les grandes victoires ou les joueurs légendaires. Ils protègent tout cela contre toute forme de commercialisation ou de modernisation qu'ils jugent excessive ou qui ne respecte pas l'esprit du club.
Oui, on voit souvent des exemples concrets de cet engagement. Si un club décide de changer son logo ou le design de son maillot sans consulter ses fans, ou de modifier la politique tarifaire des billets, rendant l'accès au stade trop cher pour les familles, les ultras sont souvent les premiers à s'organiser pour protester. Ils ne se contentent pas de grogner, ils agissent.
Ils sont la voix populaire, le contre-pouvoir, qui refuse de voir leur club bien-aimé devenir une simple entreprise sans âme, uniquement préoccupée par les profits. Ils veulent que le club reste proche de ses racines et de ses supporters.
Ils peuvent aussi être la conscience, n'est-ce pas? Ils n'hésitent pas à critiquer ouvertement les performances jugées insuffisantes, un manque d'engagement ou les décisions controversées des dirigeants. C'est une relation complexe, un mélange d'amour inconditionnel et d'exigence. Mais ils se sentent intrinsèquement liés à l'âme du club.
Oui, ils se sentent tellement connectés qu'ils ont le sentiment d'avoir le droit et même le devoir de parler au nom du club. Leur identité est souvent fortement liée à la ville ou la région du club et ils incarnent la fierté locale. Pour eux, soutenir le club, c'est soutenir leur ville et leur communauté.
C'est clair. Mais malgré cette passion et ce rôle essentiel dans l'identité du club, la culture ultra n'est pas sans controverse. Il y a des aspects plus délicats à aborder et à comprendre.
Effectivement, l'intensité de la passion peut parfois déborder et mener à des situations problématiques. On pense immédiatement à l'utilisation de fumigènes, ces engins pyrotechniques qui, même s'ils créent une ambiance spectaculaire, sont souvent interdits dans les stades et peuvent être dangereux, entraînant des amendes pour les clubs et des interdictions de stade pour les supporters.
Et malheureusement, il y a aussi des incidents de violence. On a tous en tête des images d'affrontements avec les forces de l'ordre. Ou pire, des bagarres entre groupes de supporters rivaux, ce qui ternit l'image du football et de la culture ultra.
Oui, il y a une tension constante entre les ultras et les instances du football, comme les fédérations ou les ligues, mais aussi la police. Ces autorités tentent de les contrôler, de les réglementer ou même de les réprimer pour des raisons de sécurité. Cela crée un sentiment d'incompréhension et de persécution chez certains groupes d'ultra qui se sentent injustement ciblés.
Paradoxalement, ces controverses font aussi, en partie, leur identité. Elles renforcent le sentiment d'appartenance à une subculture à part, parfois incomprise du grand public, mais qui revendique sa liberté, son indépendance et son droit d'exprimer sa passion comme elle l'entend.
C'est un équilibre très délicat à trouver, n'est-ce pas, Julie? Entre cette passion débordante, ce soutien inconditionnel et les défis liés à la sécurité et à l'ordre public dans les stades.
Tout à fait. Pour conclure, les supporters ultra sont bien plus que de simples fans. Ils sont une composante essentielle et souvent controversée de l'identité d'un club de football.
Ils sont les créateurs d'ambiance, ceux qui mettent le feu aux tribunes, mais aussi les gardiens de l'histoire et des traditions. Leur passion, même avec ses excès occasionnels, est indissociable de la culture du football moderne.
Nous espérons que cet épisode vous a donné une meilleure compréhension de ce phénomène unique et de toute l'énergie qu'il apporte dans les stades du monde entier.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce sujet sur les réseaux sociaux. C'est un débat qui passionne toujours.
On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast de français intermédiaire. À très vite.
Au revoir.
Visitez langia.com pour accéder à la transcription complète, aux flashcards multimédia et à bien d'autres choses encore.